Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La visite d'État du président du Chili à l'Indonésie. Restauration de la troupe en Indonésie est prétendue d'avoir l'appréciation du monde. Le programme des bourses d'art et de la culture du ministère des Affaires étrangères est ouvert officiellement. La conférence mondiale des ports et le recteur de l'Université Erlangga a envoyé l'équipe de Wanala à Alaska. Voici le journal complet. La présidente de la République du Chili, Veronica Michelle Bachelet Jeria, a fait une visite d'État en Indonésie du 11 au 12 mai 2017, comme déclaré dans un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta jeudi. Le président du Chili a tenu une réunion bilatérale avec le président indonésien pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Chili. La présidente Michelle Bachelet a mis l'accent de la discussion sur le renforcement de la coopération dans l'économie et le commerce, la marine et la pêche, y compris la coopération socio-culturelle. La visite de la présidente chilienne est important conformément aux priorités du gouvernement indonésien d'améliorer l'accès au marché pour les produits de l'Indonésie sur les marchés potentiels en Amérique du Sud. Pendant en Indonésie, la présidente Michelle Bachelet assistera au séminaire de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie et du Chili. En outre, elle fera une réunion au secrétariat de l'ASEAN. Le Chili est le troisième partenaire commercial de l'Indonésie en Amérique du Sud. En 2016, le volume de commerce entre les deux pays a atteint 227 millions de dollars américains, avec l'excédent en Indonésie à 60,5 millions de dollars américains. Le plan d'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Chili, qui est en train d'être discuté, a le potentiel d'accroître le commerce bilatéral, les investissements et faire du Chili en tant que porte d'entrée pour les produits indonésiens dans le marché sud-américain. Les pays du monde réagissent positivement au programme de travail du gouvernement d'Indonésie pour restaurer la zone de la taupe à un vaste de 2 millions d'hectares. Le directeur de l'Agence de restauration de la taupe, Nazir Fouad, a dit un certain nombre de pays, à savoir la Norvège, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Australie, le Canada, le Japon et la Corée du Sud, ont fourni des fonds pour la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de Jokowi JK. Nazir Fouad a annoncé mercredi à Palembang, Sumatra Sud, que la restauration de la taupe est devenue l'une de l'attention du monde maintenant, outre que le reboisement. Jusqu'à présent, la réponse du monde est très positive envers l'Indonésie. Il a dit, le monde international apprécie beaucoup le désir de l'Indonésie qui veut restaurer la tulpe, surtout quand il a appris que sa vie a pris cette mesure juste avant la naissance de l'engagement des États membres de Bon Défi. Une manifestation du fait que l'existence et l'emplacement du jardin de matériel génétique et la forêt artificielle marécageuse de tulpes dans le village Sepucuk Ogan Komering Ilir à Sumatra Sud depuis 2011. Le programme de Bourse d'art et de culture de l'Indonésie, BSBI 2017, a été officiellement ouvert mercredi le 10 mai 2017 à Gedung Pancasila du ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La Bourse des arts et de la culture indonésienne est un programme du ministère des Affaires étrangères qui a été mis en œuvre depuis 2003. En 2017, ce programme entre dans la 15e année. Le but de cette activité est d'introduire aux jeunes générations d'autres pays la variété d'identité indonésienne comme la valeur du respect de la diversité, la parenté, la politesse, la tolérance et l'ouverture. Le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, après la cérémonie d'ouverture, a déclaré aux médias que les participants de BSBI devraient devenir les amis de l'Indonésie à l'avenir.
Kita harapkan mereka juga membantu.
Nous attendons à ce qu'ils aident nos représentants là-bas à améliorer les relations et la coopération qui couvrent non seulement du côté culturel, mais aussi de la coopération politique, des relations économiques et de toutes sortes. Au cours des 15 dernières années, ce programme a généré 718 diplômes de 63 pays qui sont devenus les amis d'Indonésie et ont également aidé la promotion de l'Indonésie dans les pays d'origine. Le programme de BSBI 2017 a débuté le 8 mai 2017 et sera fermé avec une performance culturelle colossale intitulée « La chaîne de l'Indonésie », la performance des amis de l'Indonésie le 19 août 2017 à Surabaya, l'est de Java. Le thème de la Bourse des arts culturels indonésiens 2017 est « Célébrer la diversité, maîtriser l'harmonie ». Les pays prioritaires des participants de BSBI sont des pays membres de l'ASEAN, un certain nombre de pays européens, d'Asie, d'Afrique et des pays partenaires du dialogue interconfessionnel. Il existe 6 nouveaux pays dans BSBI 2017, à savoir Kirghizistan, Belgique, Ukraine, Mexique, Argentine et Tadjikistan. En outre, il y a 4 jeunes Indonésiens de Papouasie, Sulawesi Central, Kalimantan Central et l'Est de Java. Le programme qui est principalement enseigné est la langue indonésienne, l'art culturel et l'harmonie religieuse, les activités sociales et la chasse locale. Des centaines de délégations de 88 pays membres participent à la conférence de la 30e Association internationale du port du monde à partir du 7 au 12 mai 2017 à Bali, Nusa Dua Convention Center à Bali. À cette conférence, les participants discutaient d'un certain nombre d'agendas importants. Le secrétaire intérimaire du ministre coordinateur des affaires maritimes, Ridwan Jamaluddin, a déclaré à Nusa Dua Bali que la discussion principale qui s'inquiète est la durabilité du port. Pendant ce temps, Pelindo, en tant que comité organisateur, présentera le plan de l'autoroute maritime et l'ambition du président Joko Widodo de faire de l'Indonésie l'axe maritime mondial.
Sustainability, masalah keberlanjutan.
Pour la durabilité, le problème de la durabilité dans la technologie, je pense que nous avons vu certains ports en Indonésie ont été appliqués le concept de port vert, utiliser une technologie sophistiquée et une efficacité accrue. Parce que le message du président en tant que leader du gouvernement indique toujours que les ports de l'Indonésie doivent offrir les meilleurs services et efficaces. Pendant ce temps, le chef du comité, qui est également directeur exécutif de PT Pelabuhan Indonesia 2, Elvin J. Masaya, a déclaré que créer le port maritime durable est l'attention principale du pays, en particulier Pelindo, qui devrait devenir l'objectif principal pour pouvoir rivaliser avec d'autres ports dans le monde. Il espère également que la réunion annuelle peut produire diverses choses. Le point important est de savoir comment tous les membres échangent d'opinions et d'expériences dans le développement du secteur maritime dans chaque pays. Le recteur de l'Université Erlangga, Unair, à Surabaya, M. Nasih, a officiellement libéré trois athlètes des étudiants amoureux de la nature Wanala qui grimperont la montagne McKinley ou Denali en Alaska aux États-Unis du 21 mai au 9 juin 2017. Ces trois athlètes sont Mohamed Faisal Tamimi, Faculté de la formation professionnelle, Mohamed Robi Yahya, Faculté de pêche et des ressources marines, et Yasak, ancien élève qui existe dans la mission Erlangga Indonesia Denali Expedition, EIDEX. À cette occasion, M. Nasih donne une appréciation ainsi que la motivation aux athlètes. Selon lui, la grimpée des plus hauts sommets dans le monde fait partie d'un effort pour présenter Unair aux étrangers. M. Nasih a expliqué, l'autre chose la plus importante qui devrait être considérée dans une tentative de grimper Denali est la sécurité des athlètes. Il veut que tous les trois athlètes considèrent des aspects de grimper comme des facteurs physiques et des conditions naturelles. L'Indonésie a promu 16 destinations touristiques de Meeting, Incentive, Conventions et Expositions, soit MICE, dans IMEX Frankfurt du 16 au 18 mai 2017 en Allemagne. L'assistant député de développement du marché d'Europe, Moyen-Orient, Amérique et Afrique du ministère du Tourisme, Nia Niscaya, le jeudi à Jakarta a déclaré en total de 16 destinations touristiques de MICE seront promues dans IMEX Frankfurt 2017. Nia Niscaya a dit, l'Indonésie est de plus en plus considérée comme destination mondiale de MICE. L'Indonésie offre des thèmes et des installations complètes dans le centre-ville ou les îles de villégiature de la culture. La beauté naturelle avec un service au standard international aux 16 destinations gagées de MICE. Dans cet événement, plusieurs 16 principales destinations de MICE indonésiennes qui sont promues sont Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Solo, Lombok, Bintan, Palembang et Balikpapan. Chers amis, c'était le bulletin d'information.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la politique de la Corée du Sud après l'élection de Moon Jae-in. La Corée du Sud entre dans une nouvelle phase après que Moon Jae-in devienne le gagnant en tant que nouveau président élu de la Corée du Sud. Moon Jae-in, qui est un politicien libéral, a remporté le vote majoritaire contre ses rivaux Hong Jun-pyo, gouverneur de la province de Gyeongsang, et Ahn Cheol-so, un ancien allié politique qui est aussi le meilleur ami de Moon. Moon Jae-in, comme rapporté par les médias sud-coréens pendant la période de campagne, était en effet devenu un candidat présidentiel préféré. C'est parce qu'à ce moment-là, le camp conservateur luttait pour sortir d'un scandale de corruption qui avait causé la chute du président Park Geun-hye. La victoire de Moon a effectivement rendu le camp conservateur inquiète que son gouvernement modifiera ses politiques en termes de relations avec la Corée du Nord et les États-Unis. L'inquiétude survit parce que pendant sa campagne, Moon Jae-in a promis d'améliorer les relations avec les pays communistes, la Corée du Nord. Moon, qui a été finalement élu comme le nouveau président de la Corée du Sud, a également exprimé son intention d'examiner le système américain de défense antimissile à Seongju, en Corée du Sud. Moon, qui a 64 ans, a un plan politique pour suivre les politiques du groupe libéral dans l'époque du président Roh Moo-hyun. Cela est compréhensible car lorsque Roh Moo-hyun est entré au pouvoir, la Corée du Sud a établi de bonnes relations avec la Corée du Nord grâce à des livraisons de secours à grande échelle et a mené des projets économiques conjoints. Puis, Moon a été chef d'état-major du président Roh Moo-hyun. La question est de savoir comment va la relation entre la Corée du Sud et les États-Unis. En fait, Moon Jae-in a fortement critiqué la décision de Park Geun-hye de permettre aux États-Unis d'installer un antimissile THAAD à Seongju. Selon Moon, la politique appliquée à la Corée du Nord a échoué. Moon utilisera plus une approche de dialogue avec la Corée du Nord pour faire face à ses ambitions nucléaires. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 mai 1926, coup d'état militaire en Pologne. Le maréchal Józef Piłsudski, 60 ans, renverse la démocratie trop instable à son goût et établit son pouvoir personnel. Le succès de son coup d'état s'explique notamment par sa popularité depuis sa victoire sur les bolcheviks en 1920. Il veut purifier la Pologne par une dictature morale. Il gouvernera jusqu'à sa mort 9 ans plus tard, le 10 mai 1935. Le 10 mai 1930, première liaison postale transatlantique. L'aviateur français Jean Mermoz réussit sa première traversée postale sans escale de l'Atlantique Sud entre Saint-Louis, Sénégal et Natal, Brésil, au bord de l'hydravion. Il parcourt en 21 heures les 3200 km qui séparent les deux continents. Il permet ainsi l'ouverture de la liaison postale France-Amérique du Sud et Jean Mermoz disparaîtra en mer au large du Sénégal au bord de l'hydravion, la Croix du Sud, en 1936. Le 10 mai 1937, couronnement du roi George VI. George VI est couronné le 10 mai 1937, roi du Royaume-Uni en l'abbaye et Westminster. George VI accède au trône suite à la mort de son père George V et abdication précoce de son frère Edward VIII. Il passe l'intégralité de la Seconde Guerre mondiale à Londres, au palais de Buckingham, malgré les bombardements aériens allemands. Son règne se termine à sa mort le 6 février 1952. Le 10 mai 1949, le blocus de Berlin est levé. après presque un an de blocus et de ravitaillement américain par voie aérienne, les Soviétiques lèvent le blocus à Berlin-Ouest. Dans le monde occidental, la ville était devenue le symbole de la résistance à toute tentative de l'Union soviétique de prendre le contrôle de nouveaux territoires en Europe. Les Occidentaux prennent ainsi une revanche symbolique sur le coup de Prague, auquel ils n'avaient pu réagir par de vaines protestations. Berlin restera pendant 40 ans un véritable symbole, notamment après la construction du mur en 1961. Par ailleurs, la fin de blocus permet la création de la RFA 10 jours plus tard. L'Union soviétique créera un an et demi la RDA. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, l'Indonésie engage à renforcer le rôle d'IORA. L'Indonésie engage à renforcer le rôle de l'Association des États riverains de l'océan Indien, IORA, afin de développer la sécurité et la prospérité de la région, comme l'a déclaré le vice-président Yusuf Kalla lors d'ouverture de la conférence ministérielle d'IORA à Jakarta, mercredi le 10 avril. Yusuf Kalla a dit: en tant que pays situé dans l'océan Indien et comme le pays insulaire qui est uni par les océans, l'Indonésie est déterminée à élever l'esprit marin. Par conséquent, Yusuf Kalla a exprimé la haute appréciation aux membres et aux partenaires de dialogue d'IORA qui sont présents à la 10e conférence ministérielle. Il a apprécié l'engagement volontaire à la fois des membres et des partenaires de dialogue d'IORA a contribué à la mise en œuvre du financement économique bleu qui est au cœur de la conférence ministérielle. Yusuf Kalla a expliqué à l'échelle nationale, l'Indonésie a fait un plan stratégique pour construire un projet stratégique du développement de l'économie bleue durable, entre autres en fixant un objectif de 70% de réduction des déchets en plastique en mer jusqu'à 2030. Yusuf Kalla encourage les pays d'IORA de donner pleinement l'attention à l'effort de réduire les pratiques de pêche illégale. Selon lui, l'effort de pêche illégale comme le résultat de la richesse marine et des ressources économiques de la société et la criminalité transfrontalière qui devrait attirer l'attention du monde. En outre, le vice-président Mohamed Yusuf Kalla a déclaré que les mers et les océans sont l'avenir du monde. Des millions de personnes dans le monde dépendent de ressources marines sous la forme des plus grandes sources de protéines. En outre, l'océan fournit également des emplois pour plus de 200 millions de personnes du monde. Toutefois, il regrette les activités de la communauté qui ont pollué l'océan et entraîné une perte de l'habitat côtier et réduit le nombre de poissons. La réunion du niveau des hauts fonctionnaires qui est une série de la 2e conférence de l'économie bleue a convenu la déclaration de Jakarta pour une économie bleue comme guide pour le développement de l'économie bleue dans la région d'IORA. Le député des affaires de la souveraineté du ministère de la coordination maritime, Arif Hawass Ugroseno, qui a présidé cette réunion, comme cité par Antara, la déclaration de Jakarta contient un guide pour le développement de l'économie bleue à base marine dans la région d'IORA en considérant la durabilité et la durabilité de l'environnement. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
La présidente de la République du Chili, Veronica Michelle Bachelet Jeria, a fait une visite d'État en Indonésie du 11 au 12 mai 2017, comme déclaré dans un communiqué de presse du ministère indonésien des Affaires étrangères à Jakarta jeudi. Le président du Chili a tenu une réunion bilatérale avec le président indonésien pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Indonésie et le Chili. La présidente Michelle Bachelet a mis l'accent de la discussion sur le renforcement de la coopération dans l'économie et le commerce, la marine et la pêche, y compris la coopération socio-culturelle. La visite de la présidente chilienne est importante conformément aux priorités du gouvernement indonésien d'améliorer l'accès au marché pour les produits de l'Indonésie sur les marchés potentiels en Amérique du Sud. Pendant en Indonésie, la présidente Michelle Bachelet assistera au séminaire de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie et du Chili. En outre, elle fera une réunion au secrétariat de l'ASEAN. Le Chili est le troisième partenaire commercial de l'Indonésie en Amérique du Sud. En 2016, le volume de commerce entre les deux pays a atteint 227 millions de dollars américains, avec l'excédent en Indonésie à 60,5 millions de dollars américains. Le plan d'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et le Chili, qui est en train d'être discuté, a le potentiel d'accroître le commerce bilatéral, les investissements et faire du Chili en tant que porte d'entrée pour les produits indonésiens dans le marché sud-américain. Les pays du monde réagissent positivement au programme de travail du gouvernement d'Indonésie pour restaurer la zone de la taupe à un vaste de 2 millions d'hectares. Le directeur de l'Agence de restauration de la taupe, Nazir Fouad, a dit qu'un certain nombre de pays, à savoir la Norvège, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, l'Australie, le Canada, le Japon et la Corée du Sud, ont fourni des fonds pour la mise en œuvre des programmes gouvernementaux de Jokowi JK. Nazir Fouad a annoncé mercredi à Palembang, Sumatra Sud, que la restauration de la taupe est devenue l'une de l'attention du monde maintenant, outre que le reboisement. Jusqu'à présent, la réponse du monde est très positive envers l'Indonésie. Il a dit, le monde international apprécie beaucoup le désir de l'Indonésie qui veut restaurer la taupe, surtout quand il a appris que sa vie a pris 7 mesures juste avant la naissance de l'engagement des États membres de Bon Défi. Une manifestation du fait que l'existence et l'emplacement du jardin de matériel génétique et la forêt artificielle marécageuse de taupe dans le village Sepucuk Ogan Komering Ilir à Sumatra Sud depuis 2011. Le programme de bourse d'art et de culture de l'Indonésie, BSBI 2017, a été officiellement ouvert mercredi le 10 mai 2017 à Gedung Pancasila du ministère des Affaires étrangères à Jakarta. La Bourse des Arts et de la Culture indonésienne est un programme du ministère des Affaires étrangères qui a été mis en œuvre depuis 2003. En 2017, ce programme entre dans la 15e année. Le but de cette activité est d'introduire aux jeunes générations d'autres pays la variété d'identité indonésienne comme la valeur du respect de la diversité, la parenté, la politesse, la tolérance et l'ouverture. Le vice-ministre des Affaires étrangères, A.M. Fahir, après la cérémonie d'ouverture, a déclaré aux médias que les participants de BSBI devraient devenir les amis de l'Indonésie à l'avenir.
Kita harapkan mereka juga membantu.
Nous attendons à ce qu'ils aident nos représentants là-bas à améliorer les relations et la coopération qui couvrent non seulement du côté culturel, mais aussi de la coopération politique, des relations économiques et de toutes sortes. Au cours des 15 dernières années, ce programme a généré 718 diplômes de 63 pays qui sont devenus les amis d'Indonésie et ont également aidé la promotion de l'Indonésie dans les pays d'origine. Le programme de BSBI 2017 a débuté le 8 mai 2017 et sera fermé avec une performance culturelle colossale intitulée « La chaîne de l'Indonésie ». La performance des Amis de l'Indonésie le 19 août 2017 à Surabaya, l'est de Java. Le thème de la Bourse des arts culturels indonésiens 2017 est « Célébrer la diversité, maîtriser l'harmonie ». Les pays prioritaires des participants de BSBI sont des pays membres de l'ASEAN, un certain nombre de pays européens, d'Asie, d'Afrique et des pays partenaires du dialogue interconfessionnel. Il existe 6 nouveaux pays dans BSPI 2017, à savoir Kirghizistan, Belgique, Ukraine, Mexique, Argentine et Tadjikistan. En outre, il y a 4 jeunes Indonésiens de Papouasie, Sulawesi Central, Kalimantan Central et l'Est de Java. Le programme qui est principalement enseigné est la langue indonésienne, l'art culturel et l'harmonie religieuse, les activités sociales et la chasse locale. Des centaines de délégations de 88 pays membres participent à la conférence de la 30e Association internationale du port du monde à partir du 7 au 12 mai 2017 à Bali, Nusa Dua Convention Center à Bali. À cette conférence, les participants discutaient d'un certain nombre d'agendas importants. Le secrétaire intérimaire du ministre coordinateur des affaires maritimes, Ridwan Jamaluddin, a déclaré à Nusa Dua Bali que la discussion principale qui s'inquiète est la durabilité du port. Pendant ce temps, Pelindo, en tant que comité organisateur, présentera le plan de l'autoroute maritime et l'ambition du président Joko Widodo de faire de l'Indonésie l'axe maritime mondial.
Sustainability, masalah keberlanjutan.
Pour la durabilité, le problème de la durabilité dans la technologie, je pense que nous avons vu certains ports en Indonésie ont été appliqués le concept de port vert, utiliser une technologie sophistiquée et une efficacité accrue. Parce que le message du président en tant que leader du gouvernement indique toujours que les ports de l'Indonésie doivent offrir les meilleurs services et efficaces. Pendant ce temps, le chef du comité, qui est également directeur exécutif de PT Pelabuhan Indonesia 2, Elvin G. Masaya, a déclaré que créer le port maritime durable est l'attention principale du pays, en particulier Pelindo, qui devrait devenir l'objectif principal pour pouvoir rivaliser avec d'autres ports dans le monde. Il espère également que la réunion annuelle peut produire diverses choses. Le point important est de savoir comment tous les membres échangent d'opinions et d'expériences dans le développement du secteur maritime dans chaque pays. Le recteur de l'Université Erlangga, Unair, à Surabaya, M. Nasih, a officiellement libéré 3 athlètes des étudiants amoureux de la nature Wanala qui grimperont la montagne McKinley ou Denali en Alaska aux États-Unis du 21 mai au 9 juin 2017. Ces 3 athlètes sont Muhammad Faisal Tamimi, Faculté de la formation professionnelle, Muhammad Robi Yahya, Faculté des pêches et des ressources marines, et Yasak, ancien élève qui existe dans la mission Erlangga Indonesia Denali Expedition, EDEX. À cette occasion, M. Nasih donne une appréciation ainsi que la motivation aux athlètes. Selon lui, la grimpée des plus hauts sommets dans le monde fait partie d'un effort pour présenter UNAIR aux étrangers. Emnasi a expliqué, l'autre chose la plus importante qui devrait être considérée dans une tentative de grimper Denali est la sécurité des athlètes. Il veut que tous les trois athlètes considèrent des aspects de grimper comme des facteurs physiques et des conditions naturelles. L'Indonésie a promu 16 destinations touristiques, des meetings, incentives, conventions et expositions, soit MICE, dans IMEX Frankfurt du 16 au 18 mai 2017 en Allemagne. L'assistant député de développement du marché d'Europe, Moyen-Orient, Amérique et Afrique du ministère du Tourisme, Nia Niscaya, le jeudi à Jakarta a déclaré un total de 16 destinations touristiques de MICE seront promues dans IMEX Frankfurt 2017. Nia Niscaya a dit, l'Indonésie est de plus en plus considérée comme destination mondiale de MICE. L'Indonésie offre des thèmes et des installations complètes dans le centre-ville ou les îles de villégiature de la culture, la beauté naturelle avec un service au standard international aux 16 destinations gagées de MICE. Dans cet événement, plusieurs 16 principales destinations de MICE indonésiennes qui sont promues sont Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, Batam, Padang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Makassar, Manado, Solo, Lombok, Bintan, Palembang, et Balikpapan. Cher ami, c'était le bulletin d'information.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel et aujourd'hui, nous vous invitons de faire le voyage culinaire à Tapanuli Sud, à Sumatra Nord. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix d'Indonésie. Tapanuli Sud est l'un des régions à Sumatra Nord. La majorité de la population est tribu Batak Angola et Mandailing. Ce quartier a une variété de sites intéressants, entre autres le lac artificiel Cekdam dans la région Pargarutan, lac Siasis, lac Marsabut, Bang Aek Parsariran à Batang Toru, Bang Aek Sijorni, Kolin Simagomago Sipirok, Palais indigène à Muara Thais, l'artisanat de tissus de tissage ulos traditionnel et le paysage naturel effrayé à Sipirok. Si vous visitez Tapanuli Sud, n'oubliez pas de goûter la culinaire typique de la communauté locale, en particulier holat. Holat est un aliment composé de poissons rouges et tilapia et le jus frais qui contient le mélange d'assaisonnement ajouté par le bois balaka. À première vue, il ressemble à la soupe, mais le goût de bouillon est plus savoureux. Le poisson rouge ou tilapia étant la principale matière première est servi ensemble de la tête à la queue. Le poisson grillé est servi précédemment d'une manière noyée dans la sauce ainsi que des morceaux Pakat, jeûne, rotin. Le rotin est brûlé, pelé, la peau extérieure et antérieure est coupée en morceaux et mis sur une plaque. La saveur de Pakat est tendre, salée et légèrement amée. Rolat est délicieux. La saveur de sauce vient du bois balaka. L'arbre balaka est aussi appelé l'arbre malaka, kemloko ou groseille indienne et obtenu des forêts le long de Bukit Barisan à Tapanuli Sud. Ce qui est utilisé du bois balaka est la sève. La tige de balaka rasée doit avoir l'âge exact. Si elle est trop vieille, il est amer. Si plus jeune, il n'y a pas de sens. Avant la cuisson, le bois est lavé d'abord, puis gratté par autant que nécessaire. En plus d'être en mesure de la saveur des aliments, la sève du bois malaka est aussi bénéfique pour la santé. Tout le monde qui boit des jus olat, son corps sera plus frais. Certaines personnes croient aussi dans diverses parties de la plante balaka contiennent des antioxydants qui sont bons pour le corps, résistent les radicaux libres. Il est ce facteur qui encourage souvent les gens à profiter rolat. Dans les jours avant l'avènement de l'islam à Tapanuli, rolat est la nourriture des rois. La nourriture est servie le soir juste pour les rois. Dans le langage Batak, rolat signifie chelat. Par conséquent, ce culinaire s'appelle rolat, car rolat elle-même a un goût amé et chelat. Maintenant, rolat n'est pas seulement apprécié par le roi, les gens ordinaires peuvent maintenant profiter rolat. Les restaurants à Tapanuli Sud et Medan servent aussi ce culinaire local. Vous pouvez manger rolat ensemble avec une assiette de riz ou manger comme une soupe de poisson. Le prix est bon marché, autour de 15 000 à 20 000 rupiah par portion avec une plaque de riz et de sauce. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Proximement en hôtel écologique. L'air est un élément important pour la survie humaine. Afin de vivre en bonne santé, les êtres humains ont besoin aussi de l'air pur. Cependant, aujourd'hui, les gens sont difficiles à obtenir de l'air propre. Beaucoup de véhicules qui bondent les routes, les feux de forêt et bien d'autres choses ont un impact sur la condition de l'air environnant. De nombreux moyens pris aux gens d'obtenir l'air pur qui est utile pour la santé et la survie. L'un d'eux est pour Sima, un hôtel créé par un groupe d'étudiants de l'Université de Yogyakarta. Serviteur, la pollution dans les zones industrielles et les urbaines cause les gens respirent un air malsain. Par conséquent, la santé publique est dérangée avec diverses maladies telles que l'asthme, la bronchite, aux infections respiratoires aiguës ou ISPA. De nombreux moyens ont été pris par les différentes parties pour réduire la pollution de l'air en réduisant l'utilisation des combustibles fossiles, filtrer de fumée avant d'être rejeté dans l'air, créer un système de transport efficace, réduire l'utilisation de véhicules privés et d'accroître les reboisements dans les zones fortement polluées. En plus de ces méthodes, il y a aussi les parties qui se soucient de l'environnement puis développer une technologie respectueuse de l'environnement pour contrôler de la pollution de l'air existant. Ces parties sont Haris Erdianto, Danang Wahyu Prasetyo, Pandu Eho Fashudeva, Siti Masri Fatun Azahro et Anik Nur Laili, les étudiants de l'Université de Yogyakarta, pour développer la technologie de contrôle de la pollution de l'air, utilise la technologie plasma qui est respectueuse de l'environnement. Cet outil est appelé ProResima, réduction polluant avec plasma, prototype réduction des polluants sur la route avec la puissante hybride. Cet outil est encore sous forme de prototype. Selon le chef de l'équipe ProResima, Haris Erdianto, étudiant de l'enseignement en génie électrique de l'Université Yogyakarta, la fabrication de ProResima déclenchée par le phénomène de l'augmentation du volume de véhicules qui se produisent dans leur environnement. Cet outil utilise une technologie de plasma équipée de capteurs sensibles aux gaz polluants comme contrôle de plasma. En plus d'utiliser la technologie de plasma, cet outil utilise également la puissance écologique générée par les panneaux solaires. Danang Wahyu Prasetyo, l'un des membres de l'équipe, a ajouté: le fonctionnement de cet outil envoie un signal de gaz polluant détecté dans le microcontrôleur pour tourner le ventilateur. Ensuite, la soufflante aspire les gaz polluants détectés et fournit au tube contenant le plasma. Chers auditeurs, dans le tube de plasma, l'air sale, tel que le gaz CO, CO2 et NO2 connaîtront la séparation des liaisons de molécules de gaz. Le processus de séparation produit des radicaux libres énergétiques. Pendant ce temps, l'air sortant du tube de plasma est l'air relativement propre et sain en raison de réduction de ses niveaux de CO2. Chers auditeurs, c'est terminé encore pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, la carte postale, le rapport d'écoute et le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de dangdut chantées par Ahmad Rafiq. Bon, on va écouter la première chanson intitulée « La première expérience ».
Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu.
C'était la première chanson intitulée « La première expérience » chantée par Ahmad Rafiq. Il est né à Semarang, Java Central, le 5 mars 1948. Il est un acteur et chanteur de dangdut indonésien, populaire avec le surnom A. Rafiq. Une chanson intitulée « La première voix » est une chanson très populaire dans les années 1978. Cette chanson était rechantée par Nirina Zubir, en duo avec le groupe De Slang, pour le soundtrack du film Get Married. Outre qu'un chanteur de dangdut, A. Rafiq a joué dans quelques films avec un acteur Farouk Afero, un réalisateur d'une série de cinéma électronique musical intitulée Le pauvre dans l'amour. Ce cinéma a impliqué les musiciens et les chanteurs, entre autres Mansur S., Hetty Sunjaya, Jaja Miharja et une actrice connue, Mika Wijaya. Bon, chers amis, avant de continuer à parler sur Ahmad Rafiq, je vais saluer à nos auditeurs de la France, Monsieur Merci Maurice. Merci à vous pour les 5 rapports d'écoute. Toujours en France pour passer le bonjour à René Grondin. Meilleure salutation à notre ami Hervé Duval de la France. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Salut et merci à notre auditeur de Bogota, Colombia, Omar Alfredo Ortiz Robayo. Merci pour votre email le 26 mars 2016. Bien le bonjour en France à notre ami Jean-Marie Monplot. Comment allez-vous? Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Ahmad Rafiq intitulées « La première voix ».
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Sadar dibuatnya pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, Connecting, Dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.